et vous écoutez France Culture. C'est tellement dommage. Nous avons sur Terre tout ce qu'il faut pour en faire un paradis. Tout, sauf la motivation. Richard Matheson. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Terreur sur la ligne M ce soir dans Mauvais Genre qui vous entretiendra de l'actualité de messieurs Manchette et Matheson. Jean-Patrick Manchette à qui un important collectif vient d'être consacré aux éditions Anacharsis et Richard Matheson qui se voit décerner l'Olivier Girard Award, entendez, un numéro double de la revue Bifrost, toute actualité que nous évoquerons avec Hervé Aubron et Xavier Mauméjean, une émission qui se clora avec panache par les chroniques d'Élise Lépine. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre ce soir, ligne M, je le répète, Jean-Patrick Manchette, Richard Matheson. Je serai donc avec Hervé Aubron, que je salue, bonsoir Hervé.
Bonsoir, bonsoir François.
Hervé Aubron, donc, qui participe grandement à ce collectif paru chez Anacharsis sur Manchette, mais avant cela, quelques rumeurs de Cannes, vous qui êtes... historien du cinéma.
Cannes, écoutez, je n'étais
Quels
pas.
Quels sont les films qui vous démangent, que vous ayez vu?
Bah, les seuls, le seul que j'ai vu, qui était en avant-première à Cannes, c'était bien sûr les deux premiers épisodes de la nouvelle saison de Twin Peaks. C'est
alors?
La seule chose que j'ai pu juger sur pièce. Écoutez, j'ai un peu pédalé au début, je m'y suis surpris à deux fois, la deuxième fois c'est quand même plutôt pas mal, hein, j'ai l'impression pour le moment. Ce qui est assez bizarre là pour le moment, c'est une espèce de mix entre Inland Empire, la Red Room de la deuxième saison, et un petit côté Boulevard de la Mort de Tarantino, avec ce drôle de double de doppelganger de Del Cooper, donc joué par Kyle MacLachlan, avec une espèce de moumoute et une chemise en serpent, très curieuse.
Bon, ben très bien, nous allons continuer à l'exégèse tout au long du
mois. Une terrible machine, enfin, bref.
Non, Paco Ptielman nous en parlera également dans quelques semaines. Je suis avec Xavier Mauméjean, comment va-t-il?
Bonsoir, ben très très bien.
Très très bien.
Ravi.
Pas d'erreur, c'est Mauméjean. Et alors, quelle son actualité, l'actualité de Xavier Mauméjean?
Alors en ce moment, en septembre, la sortie d'un roman chez Alma, une enquête menée par Freud et Houdini à New York en septembre 1909.
Et pour l'instant, avant les vacances,
pour l'instant, entièrement... dédié à Mauvais Genre.
Bonsoir Élise Lépine.
Bonsoir François.
Alors participe à cette émission, surtout pour les chroniques finales. Alors quels sont les trois ouvrages dont vous allez nous parler?
Alors je vais parler d'Alice de Patrick Sénécal, une relecture, une réinterprétation d'Alice au Pays des Merveilles. Je vais parler de Pyromane, d'un auteur polonais tout nouveau sur la scène du polar, Wojciech Szmierlarz, je m'étais entraînée, mais ça se voit pas.
Non.
Et je vais parler de Desert Home de James Anderson chez Belfond, qui est un récit noir dans le désert. Voilà.
Très bien, ça sera avec vous, Élise, en fin d'émission. Mais comme hélas, en ce samedi, notre amie Céline Duchesnay n'est pas présente, on peut parler de Roger Moore. On va consacrer un peu de temps à la disparition de Sir Roger Moore, Xavier Mauméjean.
Oui, alors disparu à l'âge de 89 ans, né en 1928, il est pour un nombre de générations, parce que il commence avec Ivan Noé, continue avec Le Sein et éclate au début des années 70 avec Amicalement Vôtre, il est pour toute cette génération qui tourne autour des années joyeuses, des 60s, des 70s, le héros nonchalant, britannique, élégant, qui va privilégier le bon mot et le haussement de sourcil à la violence. Il est aussi celui qui intervient dans Alias. Non, j'ai été touché par cet homme, il est mon enfance. Voilà, un peu comme d'autres émissions, d'autres héros.
Roger Moore, et vous de votre côté, Hervé Aubron?
Ce n'est pas un attachement aussi charnel, visiblement, à Roger Moore, mais c'est vrai que c'est quand même un des plus beaux jeu de sourcils finalement. Hein. Pour moi, c'est sont essentiellement les sourcils. Ce que je trouve assez surprenant chez Roger Moore, c'est son côté globalement assez monolithique. On peut pas dire que c'est un acteur très flamboyant, et tout était concentré dans les sourcils. Je trouvais ça, tout était dans le sourcil.
Oui, c'est une figure assez un peu refondatrice de l'élégance britannique à la, comment dirais-je, à l'écran, puisqu'on avait des gens comme David Niven, mais qui avaient un côté impérial. C'était plus l'élégance britannique de l'époque impériale, ou de l'époque du juste après-guerre, gens comme Rex Harrison, des gens comme ça. Mais avec Roger Moore, on entrait dans une nouvelle époque, un petit peu de décontraction, beaucoup moins, je dirais, avec moins de camp, moins de, espèce de snobisme, un petit peu à l'ancienne, quelque chose d'un peu plus, nouveau, d'un peu plus moderne.
Oui, bah, il y a un peu le chaînon manquant entre la violence féline animale de Michael Caine, le bad guy cockney, et cette élégance qui est britannique, mais qui n'est pas anglaise, voilà. De Sean Connery. Il trouve une sorte d'équilibre entre les deux, et il est le plus mal aimé, mais l'un des plus célèbres, James Bond. Mal aimé parce qu'il est trop Roger Moore et pas assez 007.
Très bien, bah c'était le coup de chapeau de mauvais genre à ce Roger Moore, donc qui vient de nous quitter. Alors on va passer maintenant dans un univers noir, quand même bien différent de ceux qu'a fréquenté le James Bond de Roger Moore, notamment celui de Jean-Patrick Manchette. Béatrice Dillon et Rupert Clare en ouverture de cette playlist Mauvais Genre de ce soir. Alors, on va commencer cette émission par donc Jean-Patrick Manchette. Jean-Patrick Manchette avec ce collectif qui paraît à Bordeaux aux éditions Anacharsis. Jean-Patrick Manchette et la raison d'écrire. Un collectif qui est émané d'un colloque qui s'est tenu, je crois, au mois de novembre 2015 à Bordeaux, avec l'aide et le soutien actif de la librairie Mola. Et donc qui regroupait sous l'égide de deux universitaires, Nicolas Lefleck et Gilles Magnon, toute une série de lecteurs, d'amateurs, de personnes qui se sont penchées avec ferveur et passion sur l'univers de Manchette. Hervé Aubron, vous en êtes, de cette équipée. On pourrait déjà d'abord essayer, avant de rentrer vraiment dans le sujet Manchette, d'évoquer le titre du livre, Manchette et la raison d'écrire. Je parlais les raisons d'écrire, ou quelle raison d'écrire, et la raison d'écrire. C'est quasiment un titre kantien, je parle sous le contrôle de monsieur, du professeur Mauméjean.
Alors écoutez, la responsabilité en incombe à Nicolas Lefleck et Gilles Magnon. Je n'en ai pas parlé directement avec eux. Je crois que l'aspect énigmatique du titre est voulu. Mais je crois que dans l'esprit des deux directeurs du livre, il y a cette idée quand même, on y reviendra, de cette langue très particulière de Manchette qui peut évoquer, parce que oui, on pense à Kant, on peut aussi penser à, pourquoi pas, Descartes, Pascal, etc.
Puis Hegel, mon chat, qui
voilà, sont ouais. Les Russes de la raison, bien sûr, et tout ce cas, toute cette espèce de rectitude, on va dire, ou de tranchant, qu'il y a chez Manchette, et je pense que dans cette idée de la raison d'écrire, il y a cette dans l'esprit de Gilles Magnon et Nicolas Hulfly, il y avait cette idée de retrouver ce tranchant qui reste assez énigmatique. Je crois que le singulier, la raison d'écrire,
oui, c'est
précisément,
ça, puisque...
c'est d'autant plus énigmatique que effectivement, quand on se plonge dans le livre, on voit bien que, on va sûrement y revenir, il y a beaucoup de contradictions par ailleurs chez Manchette. Mais néanmoins, il y a toujours cette histoire, voilà, du tranchant, je crois.
Effectivement, il y a du tranchant chez Manchette, et pas seulement dans les motivations littéraires, mais également dans les récits où là où
ça, il y a une nécessité impérieuse aussi. Il y a une nécessité impérieuse. Je crois que c'était ça qu'il y avait. C'est un faux rationaliste, bien sûr, Manchette. Mais en revanche, il y a une nécessité impérieuse. On pourrait y revenir aussi. Ça a été un forçat de l'écriture.
Avec un ensemble, donc Hervé Aubron, découpé en quatre parties au moins, Manchette écrit tout de même, ce tout de même, on va le voir, est important, Manchette écrit des polars, titre assez singulier, Manchette écrit large, et Manchette s'échappe, avec chaque fois des titres de parties un peu bizarres, qui montrent bien que les problématiques qu'on développe à propos de Manchette ne sont pas les problématiques habituelles et ordinaires concernant un auteur dit de polar.
Oui, enfin, je crois que l'idée quand même du collectif, c'était justement de pas tomber dans le. En fait, avec Manchette, c'est vrai qu'il y a. C'était de pas tomber dans deux écueils quand même. C'était le côté soit on récupère quelqu'un de ce qu'on appelait autrefois la paralittérature ou du genre pour en faire tout d'un coup une espèce d'objet universitaire totalement délié de ce côté précisément marginal auquel tenait Manchette, et ce côté, enfin, cette question de la marge. Pas ce côté-là, et pas non plus en faire une espèce de... Donc il n'y a pas le côté, je veux dire, les experts de l'université qui vont se pencher sur l'écrivain illégitime,
avec bienveillance,
etc. Et c'est pas non plus l'idée de transformer Manchette en un artiste conceptuel. Ce serait l'excès inverse. Donc évidemment, il y a la question du polar, mais je crois que bon, c'est à peu près réglé pour tout lecteur digne de ce nom aujourd'hui. Un auteur de polar est un écrivain. Et que donc, le polar fait partie du problème, mais n'est pas le seul problème. Et voilà.
Et la dernière partie, donc la cinquième, c'est courir après Manchette, puisqu'effectivement, adaptation en bande dessinée au cinéma, le personnage s'est encore amplifié et complexifié après sa mort en 1995. Alors, parmi les contributeurs, outre vous, Hervé Le Aubron, il y a François Guérif et Jeanne Guyon, donc, qui ont travaillé sur la correspondance de Jean-Patrick Manchette, sachant quand même que François Guérif était un proche de Pierre Signac, que Signac a entretenu une correspondance avec Manchette, donc il y a toute une étude sur Manchette correspondant, et on dit souvent que dans la grande lignée des situationnistes, il y avait un côté homme du grand siècle, enfin amoureux de la belle écriture 17e, celle du cardinal de Retz et de Saint-Simon, et qu'à ce titre, Manchette était un épistolier fervent, et qu'il écrivait des lettres très longues, minutieusement calligraphiées, à des correspondants souvent très variés. Ça pouvait être des enfants, les élèves d'un lycée aussi bien que d'un père en écriture de roman noir. Donc il y a ce texte de Guérif et Aiguillon. Christian Roux, donc, qui est auteur de polar, notamment musicien, notamment chez Rivage, lui a travaillé sur les chroniques. Alors il y a un article très étonnant de Xavier Boissel, que j'avais eu plaisir de faire venir un mauvais genre pour un de ses récents romans chez Inculte, qui parle de l'aspect politique, idéologique, le côté maquisard révolutionnaire de Manchette, qui s'introduit derrière les lignes ennemies et qui est là un peu pour parasiter et pour mettre du grain, des grains de sable dans la machine. Vous-même, vous avez fait une contribution dans la troisième partie, Manchette écrit large, l'œil dans le viseur ou Alice au pays des manchettes. On pense, avant de détailler, on peut en savoir un peu plus sur ce pays des manchettes, Hervé Aubron.
Oui, mais je suis parti tout simplement de ce mystère pour moi. Moi, j'ai lu Manchette dans mon adolescence. Ça a été un cap important pour moi, pour diverses raisons. Et j'avais évidemment, comme beaucoup, j'étais évidemment fasciné par son nom. Et j'étais persuadé que c'était un pseudonyme, ce qui collerait assez bien avec son côté situationniste, quoi. Jean-Patrick Manchette. Et en fait, je suis parti tout bêtement de ce nom, qui est en fait, c'est assez beau, presque un pseudonyme au naturel, je dirais, puisque effectivement, son grand-père était un orphelin qui a été recueilli par des bonnes sœurs, et on lui a donné ce nom, en fait. Son grand-père était de nom inconnu, il a été abandonné devant un couvent, je crois, et on l'a appelé Manchette. Et évidemment, alors d'abord dans ma tête, la manchette, c'était plutôt les boutons de manchette, ouais, parce qu'il y avait l'image du dandy, Jean-Patrick Manchette, etc. Et puis, bien sûr, en fait, lui-même, d'ailleurs, il a plutôt versé pour la deuxième hypothèse, pas les boutons de manchette, mais il y a aussi les manchettes de presse. Et d'ailleurs, voilà, dans le pseudonyme qu'il utilise dans ses chroniques, ses fameuses chroniques, notamment de cinéma, c'est Chateau Headline, donc la manchette. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que la manchette, c'est à la fois du texte et de l'image. C'est un texte-image, une manchette, hein. Et en fait, je voulais dans ce texte, on pourra en
parler... Qui est vu autant qu'il est lu.
Voilà. Et je disais, voilà, je dis manchette, il pourrait confesser, je crois, la même maladie que ce que disait Barthes dans le... Roland Barthes, pas Roland Barthes, il disait, je vois le langage. Et moi, j'ai cette impression-là. J'ai voulu essayer de faire un texte sur, non pas... je dirais les spectres de l'image, au sens où c'est vrai que Manchette était un grand amateur de cinéma, de bande dessinée, etc. Et donc ce que ça pouvait produire sur son écriture. Mais le fait que, selon moi, il écrit en dessinateur, j'ai ce sentiment-là. Il y a une telle clarté parfois dans son écriture qu'on a vraiment l'impression, voilà, à la fois de lire et de voir, mais indistinctement. Et disons que j'ai essayé de filer quelque chose à partir de ces manchettes-là et de ces textes manchettes, en allant jusqu'à une extrémité un peu lointaine, et on pourra en parler aussi peut-être, en essayant de voir en manchette, pourquoi pas un héritier méconnu de Lewis Carroll, parce que j'y reviendrai, voilà, parce que
il y a une thèse intéressante.
Ça ne vient pas d'absolument nulle part, mais voilà. Et comme vous le savez, voilà, le texte et l'image, c'est aussi important chez Lewis Carroll.
Élise Lépine, votre rapport, vous qui êtes spécialiste de polar et de...
Alors moi, lectrice admirative, mais lectrice pour l'instant inaccomplie de Manchette. Il y a beaucoup de choses que j'ai encore pas lues.
Il y a un très beau Quarto Gallimard qui vous permettra de tout, lire.
Qui m'attend les bras ouverts. Et j'ai lu Manchette jeune aussi, hein, ado. Et j'ai des souvenirs émerveillés de lecture, notamment les incipit, cette façon de vous projeter dans le texte dès le début. Si je me souviens bien, l'incipit du Petit Bleu de la Côte Ouest, hein, c'est ça qui est magnifique et qui avait été évoqué par Nicolas Mathieu dans un numéro de 813, justement, sur Manchette,
qui avait dit que ça... C'est un vent, il décrit le déferlement d'une énorme bourrasque.
Non, dans le Petit Bleu, c'est la position du tireur couché. Voilà. Le Petit Bleu, c'est ce fameux, le héros, vous savez, qui roule en rond sur le périphérique, voilà. Et c'est cette boucle qui d'ailleurs inaugure et clôt
il y a un vrai génie, justement.
C'est vrai qu'il y a un génie de l'incipit chez Manchette. On parlait, avant que cette émission ne démarre, du début de Odingo au château, qui est le meurtre par un tueur professionnel d'un homosexuel qui a séduit le fils d'un industriel. Et Manchette dit qu'il lui fait éclater le cœur avec une lame de scie à laquelle il a fixé une poignée en fer. Une espèce de scène qu'on ne peut pas se figurer et qui, par là même, est encore plus redoutable. Et puis alors, donc, c'est la position du tireur couché, on corrige le tir, qui raconte le déferlement d'une énorme bourrasque sur l'Europe.
Oui, une espèce de vent qui vient du pôle Nord, et c'est comme une espèce de tapis volant qu'on survole, et que on pourra y revenir aussi, peut-être, d'ailleurs, Jean Echenoz dont il a fait le remake dans un de ses livres, Nous Trois.
Xavier Mauméjean, vous, votre rapport à Manchette?
Moi, ce qui m'épate, c'est que la vie, le réel, devient parfois le commentateur de Manchette. Je pense par exemple à Nada, qui écrit très très peu de temps après les premiers attentats à mort d'homme de l'ETA, après les procès de Burgos. Et puis, Nada, me semble-t-il, est sous cette influence. Et on peut se demander si, par exemple, par la suite, si Action Directe n'est pas influencée par l'écriture de Manchette. Cette espèce d'élégance du situationniste, hein, qui fait que les repères sont brouillés entre réel, vrai et faux. C'est l'étonnement de Manchette.
Hervé Aubron, pensez qu'il y a entre l'Action Directe et
Manchette, Nada, c'est un livre qui a une place nihiliste, un peu particulière, qui est nihiliste, parce que lui-même, il est, il l'a dit, visiblement, la lutte armée n'était pas pour lui une option. Hein. Manchette et la politique, on va peut-être en parler. Voilà, c'est un gros morceau, parce que tout le problème de Manchette et ce avec quoi il s'est débattu. C'est pour ça que, quand j'ai un peu maladroitement, et j'espère que les directeurs du livre me le pardonneront, essayer de commenter leur titre sur cette histoire de la raison d'écrire. Encore une fois, Manchette, c'est quelqu'un qui à la fois est quelqu'un d'extrêmement structuré, intellectuellement, théoriquement, etc. Ce qu'on voit dans son journal, notamment. En revanche, ça n'empêche pas qu'il assume, qu'il soit pétri de contradictions, y compris quand il s'essaie à la théorie, entre guillemets, dans son journal. C'est un grand lecteur de Hegel, donc de toute façon, la dialectique, ça sert bien à ça, à se contredire. Donc c'est quelqu'un effectivement de très structuré, mais donc pétri de contradictions, et notamment une des grandes contradictions, c'est tout le problème de comment on peut être, se dire à la fois révolutionnaire politiquement et s'avérer quand même de plus en plus comme un grand formaliste. A priori, il y a quand même un souci, c'est-à-dire comment être un formaliste révolutionnaire. A priori, la forme, c'est le dégagement parfait. Et c'est vrai que quand on voit les grands livres terminaux comme La position du tireur couché ou Le petit bleu de la côte ouest, sont quasiment des livres qui lorgnent vers l'abstraction. Enfin, moi, voilà, sont des livres de géomètre. Il y a plus de politique.
Topographe, dites-vous.
Oui, de topographe, de physicien presque. On parle de la boucle là de la voiture, mais c'est presque un synchrotron. Enfin,
c'est ça, voilà,
un cyclotron. Un cyclotron, oui. Pardon, excusez-moi. J'ai oublié mes cours de physique de lycée, mais donc il y a quelque chose, voilà, et pourtant il essaie de tenir les deux, et presque dans cette espèce effectivement d'écriture au couteau, hein, souvent aussi l'idée d'une écriture de plus en plus à l'os, etc. Il y a évidemment quelque chose, voilà, qui d'un certain point de vue va essayer de tenir quand même cette espèce d'engagement révolutionnaire d'autrefois. Peut-être en montrant tout le problème, c'est encore cette histoire là de où est-ce qu'on en est, puisqu'il y a toujours cette idée aussi que le polar, c'est le genre du capitalisme tardif et de la contre-révolution.
Alex Menzies, donc un choix de Laurent Polleret pour cette évocation ce soir dans Mauvais Genre de Jean-Patrick Manchette. Alors, pour rafraîchir les mémoires ou pour faire découvrir Manchette à ceux qui ne le connaîtraient pas, un peu de bibliographique. Hervé Aubron, il est pendant l'occupation en 1942, il mourra très précocement d'un cancer en 1995. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Manchette est arrivé à ce qui est aujourd'hui le cœur même de son œuvre et de sa vie posthume, c'est-à-dire les romans qu'il publie entre 1900, dans les années 70, on peut le dire, à la série noire, donc un milieu modeste, et puis au départ, fascination pour la bande dessinée, pour la science-fiction, militantisme révolutionnaire aux côtés du Parti communiste pendant la guerre d'Algérie, après il se rapproche des situationnistes, et puis ensuite une carrière d'angliciste, c'est-à-dire que les traducteurs parmi les plus chevronnés reconnaissaient le très grand talent de traducteur, on va en parler, de Jean-Patrick Manchette, un des travaux pour le cinéma, notamment pour la littérature pour enfants, au cinéma Max Pécasse. Max Pécasse.
Il a même fait des scénarios pour Max Pécasse.
Alors, quand même, un premier parcours, on recule le moment d'évoquer la série noire, Hervé Aubron, mais un parcours quand même un petit peu chaotique, de quelqu'un qui est un peu mal positionné.
Oui, enfin pas si chaotique en même temps parce que effectivement ce qui a été bon typiquement c'est un voilà un enfant né pendant la guerre en effet fils unique visiblement très tôt dans les piles de livres, des cahiers, il fait il dessine hein, il fait des petites BD etc. Donc quelqu'un qui est un peu dans sa une espèce de bulle imaginaire comme ça et puis finalement il fait des on le destine plus ou moins à devenir prof, puisqu'il s'avère qu'il est assez bon en anglais. Je crois qu'il y a du sang anglais du côté de sa mère. Et visiblement, alors là, pour le coup, voilà, il y a une vraie conviction, c'est il veut pas être prof. Donc il va quand même tenter l'école normale trois fois. Hein. Il l'aura pas, mais même s'il l'avait eu, parce que bon, il enchaîne sur des études d'anglais à la fac. Et en fait, il arrête à la licence. Voilà. Et à partir de là, dès le début, il y a quand même cette idée fondamentale qu'il veut vivre de l'écriture. Ce qui est déjà quand même, alors ça peut paraître effectivement chaotique, mais ce sera toujours un enjeu chez lui. Ce côté, effectivement, je ne suis pas un artiste, mais je suis un artisan, voire un mercenaire. Il y a un vrai goût d'avoir son indépendance tout en étant a priori acheté. Mais là aussi, paradoxe. Mais
le fait d'être acheté,
le fait d'être un sous-marin en quelque sorte, et donc en effet de faire des scénarios pour Max Pécasse, et aussi des livres érotiques. Hein, d'ailleurs, édité par Gene Deforge, il y a un truc qui s'appelle la Chasse d'Aphrodite. Hein, c'est vraiment bonne. Il fait des livres pour enfants qui s'appellent les Globetrotters. Enfin, il fait plein de choses comme ça et il aime beaucoup ce côté, je crois, être dans la marchandise, hein, on va y venir, mais être aussi, être adopté, pour parler comme Benjamin, le point de vue de la marchandise. Hein, c'est-à-dire, je suis peut-être quelqu'un d'extrêmement structuré intellectuellement, théoriquement, etc. Mais pour moi, la seule littérature qui vaut encore, ce n'est pas la littérature, la grande, entre guillemets, littérature, la littérature d'art ou que sais-je, c'est la marchandise. C'est là-dedans qu'il faut y aller et il faut se salir les mains avec ça. Et en même temps, il faut manger, en effet. Donc, il y a ce côté, effectivement, a priori, je pars dans tous les sens, mais en même temps, ce choix très précoce de vivre de l'écriture, quitte à être un forçat.
Et la politique ? La révolution ?
La révolution, c'est encore assez vite quand même pour lui, parce que même si effectivement sur l'Algérie il milite, etc., il a quand même assez tôt, et d'ailleurs quand même son premier vrai gros livre à la série noire, c'est l'affaire Ngoustro, qui est quand même sur la décolonisation, etc. Il est déjà, et qui prend, dont le narrateur est quand même en gros un type d'extrême droite, hein, d'ailleurs. Très tôt, il repère, je crois, enfin. Il voit assez vite les écueils, c'est-à-dire tout comme... En fait, Manchette, c'est quelqu'un qui éteint tout emphase, je crois. C'est quelqu'un qui est absolument rétif à l'emphase, comme grande escroquerie. Ça veut dire l'emphase artistique, précisément. Hein. C'est quelqu'un, encore une fois, j'insiste, qui dit l'art est mort, hein. Côté, voilà. Donc, les écrivains, je ne suis pas un écrivain, en gros. Et l'emphase politique aussi, il a un problème avec ça. Ce en quoi il est quand même un assez bon situ, hein, d'un certain point de vue, un situationniste. Mais à partir de là, encore une fois, sur la politique, il y a un engagement difficile, compliqué, et il y a une position difficile. Et peut-être qu'on parlait là du périphérique et de la boucle périphérique. Je crois que chez lui, il y a cette idée d'être une espèce comme ça d'électron tournant autour de ces masses noires difficiles.
Alors justement, parlons-en. L'art est mort. C'est quelqu'un qui arrive qui est dans la droite ligne du dadaïsme, qui considère qu'après Dada, ma foi, la question de l'art est réglée, la question de l'expression est réglée. C'est quelqu'un aussi qui a fréquenté les situationnistes, qui se revendique un petit peu de l'école de Bord. Donc, et avec tout ce bagage intellectuel, je dirais cette vision, il arrive dans le récit policier, et c'est là où qui va faire en sorte que ce récit ne soit plus un récit policier mais un récit noir, et qu'il va d'une certaine manière le subvertir de l'intérieur. Hervé Aubron.
Oui, puis surtout ce qui est compliqué, c'est que quand il dit que l'art est mort, c'est qu'effectivement c'est quelqu'un qui est vraiment dans une espèce d'imaginaire, effectivement, encore une fois, l'idée que le polar est la dernière littérature tenable d'un certain point de vue. Notamment parce que c'est effectivement, selon lui, le genre, encore une fois, de la contre-révolution et du capitalisme tardif. Mais donc, à terme, si la révolution advient, il doit disparaître comme le reste. Il y a cette idée que l'art est quelque chose qui a fait son temps et, en effet, qui relève d'un ordre ancien, pourquoi pas bourgeois, etc. Or, évidemment, paradoxalement, ce qui frappe quand même quand on lit Manchette, c'est effectivement son grand souci, je le disais, formel. Et effectivement, la tentation... mais pour essayer d'y résister, d'en faire une espèce d'artiste conceptuel du polar. Il y a pourtant bien de cela quelque chose. Parce que quand on lit les chroniques de Manchette, il dit par exemple Pique-Pan du nouveau roman, bien sûr. Or, quand même, quand on lit Manchette, on peut évidemment penser au nouveau roman et à l'école du regard. On peut aussi penser à Pérec. Alors Pérec, Il dit des mots très tendres sur Pérec. Et évidemment, il y a une vraie... D'ailleurs, ce sont des contemporains quand même, enfin, quelques années d'écart. Il y a vraiment quelque chose dans Le Petit Bleu de la Côte Ouest. Il est évident que quand on décrit l'appartement de Gerfaut, le héros du Petit Bleu de la Côte Ouest, ce sont les choses, c'est les choses. Et les choses, je pense que c'est un grand livre pour Manchette. Donc... tout ça pour dire que voilà, et on pense au nouveau roman, etc. Mais lui, alors évidemment, alors là, le nouveau roman, décadence totale pour lui, décadence artistique totale, préciosité, etc. Mais donc, il va encore une fois essayer de tenir cette position intenable, et peut-être que ça va jouer de son épuisement précoce et de sa disparition précoce. C'est voilà, l'art est mort, mais j'en fais toujours. Hein.
Quant aux romans policiers, qui sont de simples divertissements, ils ne m'intéressent pas. Justement, il en arrive des paquets, chaque mois. Des polars qui sont de simples divertissements. Et plusieurs sont d'excellents divertissements. L'intrigue est solide, aussi originale que possible dans un genre où les combinaisons dramatiques sont aussi usagées que celles du théâtre de boulevard. Les personnages sont plaisants, c'est écrit dans une langue correcte et même efficace. Il y a aussi de nombreuses merdes, n'en parlons pas. On voudrait les citer pour leurs belles qualités, mais mieux vaut s'abstenir. Parce qu'on sera enfin forcé d'offenser l'auteur en précisant que son ouvrage n'a qu'un seul usage possible, tuer le temps. La malédiction des auteurs est qu'ils paraissent eux-mêmes avoir écrit pour tuer le temps. Il en résulte logiquement que ce genre de littérature policière est écrit par des zombies pour des zombies. Voilà les propos drastiques et radicaux de Jean-Patrick Manchette sur, je dirais, la production noire française de son temps. Son dernier roman, à quelle date le dernier roman paru de Manchette
c'est La Position du Tireur Couché, c'est 81.
81, donc c'est vraiment l'homme des années 70.
C'est ça qu'on n'a pas quand même évoqué. C'est, alors d'abord, je voulais juste rebondir, il y a le mot merde là dans ce que vous venez de dire. Le mot merde revient très fréquemment sous la plume de Manchette. Et y compris dans les romans. Ça qui est très beau dans les livres de Manchette, parfois j'ai l'impression de... Il y a quelque chose sur l'immondice caché. Hein. Il y a un extrême soin formel, mais avec toujours cette idée que, un peu comme dans une sale histoire de stage, vous savez, hein, quand le narrateur dans une sale histoire de stage dit « J'avais l'impression que le bar, c'était que du toc, et il y avait que ce trou plein de merde, finalement, et que tout autour, c'était que du toc. » Il y a bien cette idée qu'on est dans une espèce de décor, et que derrière, il y a de l'innommable. Hein. Il y a très souvent cette question.
Alors justement, cette dimension, c'est celle que vous avez travaillée dans votre article, Hervé Houbron, sur l'idée, un peu comme Alice, elle plonge aux profondeurs du gouffre, en courant après le lapin, mais c'est pour découvrir un univers de cartes à jouer. Donc c'est la profondeur vous révèle une sorte de, je vais pas dire de platitude, mais d'aplat des choses.
Oui, enfin, c'est-à-dire que je parle effectivement de cette espèce de cette question de le. Ce qui est bizarre, c'est que voilà, c'est effectivement un grand formaliste, un topographe, un architecte aussi, quelque chose comme ça, un radiographe pourrait-on dire, parce que je m'amuse. Son père était radiographe, un opérateur en radiographie, et en même temps, c'est donc quelqu'un aussi qui est sur qui travaille sur l'abject, encore une fois. C'est-à-dire que l'abject est d'autant plus là que effectivement tout est à la ligne en ligne claire par ailleurs. Hein. Il y a cette idée-là. Et effectivement, il y a quelque chose sur la profondeur innommable et d'autant plus qu'on peut seulement dire presque en travaillant l'aplatitude précisément. Hein. Ce monde des marques, on n'en a pas parlé non plus, mais il y a tout cet enjeu, je parlais de Pérec, tout le problème des clichés, des marques, du marketing, du design ambiant, on est vraiment dans cette période-là. Les années 70, c'est ce moment où on se rend compte qu'on est dans un monde complètement designé, et voilà. Et donc il va travailler cette espèce de papier peint des marques tout autour, qui va rendre d'autant plus béant, je dirais, certains trous, voilà, parce qu'il y a vraiment une scatologie ou une morbidité sous-jacente chez Manchette qui apparaît.
Il y a une étude dans le recueil Manchette et la raison d'écrire consacrée aux figures du mal. C'est un peu surpris quand même de cette partition qui est faite entre, je dirais, un roman policier anglais traditionnel où la réalité, l'ordre se rétablit assez facilement. Il s'agit simplement de décabosser un petit peu le coup porté à la belle carrosserie sociale musicale anglaise. Alors ça, ce serait plutôt de l'ordre du mal métaphysique, alors que les Hard Boys, c'est-à-dire Chandler et Hammett, puis Manchette, seraient du côté d'un mal historiquement produit. En définitive, tout est de toute façon foutu. On est dans un monde où le bien a perdu, où le mal triomphe, s'épanouit, fructifie. Et là, ce serait plutôt un mal historique. Il y a quand même une vision aussi métaphysique dans cette manière, je dirais, quasi augustinienne, voire janséniste, de dire que de toute façon, tout est joué, tout est perdu, et que on aura beau essayer, il y a pas un problème de carrosserie, là il y a un problème de moteur. Le carburateur est foutu, et donc le moteur ne fonctionnera jamais dans la société des hommes. Là aussi, il y a quand même un arrière-plan. Il y a Hegel, d'accord, mais il y a aussi peut-être aussi un pessimisme ontologique, voire théologique.
C'est le problème de l'ordre, je dirais, quand même. Bon, ce qu'on peut reprocher, effectivement, c'est la tarte à la crème, et d'ailleurs, Manchette lui-même dit que c'est une tarte à la crème, mais bon, l'idée que le roman à énigme est finalement, effectivement, un genre de droite, disons, réactionnaire, puisque, en quelque sorte, on va rétablir la vérité, on va rétablir l'ordre, on peut rétablir l'ordre. Alors que la série noire, le polar, le hard-boiled, est précisément la peinture d'un monde dans lequel l'ordre n'est que fallacieux, escroquerie, paravent, et où effectivement, ou parodie, donc il y a cette idée que de toute façon, alors ça peut être effectivement pour des raisons, propres à telle ou telle option politique, mais aussi parce que l'homme ne peut toucher, enfin que tout ordre est fallacieux de ce point de vue-là. Et c'est vrai que chez Manchette, il y a quand même ce problème-là chez lui, parce que il le dit à un moment donné dans son journal, et ça touche à cette question politique et cette question de création. Il dit voilà, moi en tant que révolutionnaire, j'espère que l'ordre actuel soit balayé, et en même temps, s'il était balayé, je serais bien embêté, parce qu'en dehors de cet ordre, je ne sais pas ce que je ferais. Et c'est là toute la question.
D'autant plus que les héros de Manchette ne sont pas des détectives désenchantés, ni de fringants policiers, mais des criminels eux-mêmes, souvent.
Des criminels ou des types. Le problème aussi, c'est effectivement, là aussi, c'est souvent quelque chose qu'on parle souvent de behaviorisme, etc., poussé à l'extrême, c'est un refus de la psychologie, sur quoi on peut penser au nouveau roman, etc. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de... Le problème, c'est que c'est pas une négation de la psychologie, c'est que voilà, Manchette a cette espèce de pudeur ou de lucidité sur laquelle on ne peut pas que ça fait partie de cette béance-là. C'est pas que ça n'existe pas, c'est que ça fait partie de ces béances, de ce qu'on ne peut pas dire. Cela, l'ordre des mots ne pourra pas y toucher. Il y a cette très belle chose dans Le Petit Bleu de la Côte Ouest quand il décrit l'intérieur de la voiture du héros Gérard Gerfaut, qui est un cadre en fait lui qui se retrouve pris dans une intrigue plus policière à cause d'un quiproquo. Alors là, on décrit très longuement, et vraiment à la Manchette, l'intérieur de sa voiture, et dans la foulée, il dit, quant à l'intérieur de, je cite de mémoire, de Gérard Gerfaut, donc ce personnage, on n'y voyait pas grand-chose, si ce n'est quelques convictions de gauche. Et voilà, et c'est tout ce qu'il dira, en gros, mais voilà, c'est pas qu'il y a rien dans Gérard Gerfaut, c'est que c'est obscur.
Xavier Mauméjean.
Oui, puis vous parliez de Hegel, il y a aussi cette idée que peut-être les personnages de Manchette, bon, sans la grandeur d'un homme historique, mais sont l'homme de leur temps. Ils sont le fameux grand homme de Hegel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils incarnent un état particulier, souvent transitoire, dialectique, le mot terrible a été lâché tout à l'heure, et qu'en ce sens, ils représentent une aspiration, une non-aspiration de ce temps-là. Donc si tout est joué, il faut le jouer selon les règles du moment. Et en ce sens, les personnages de Manchette incarnent leur temps.
Pour conclure, Hervé Aubron.
Oui, pour conclure, juste, on n'a pas parlé du silence de Manchette, parce que c'est ça qui est quand même très émouvant et touchant et déchirant, c'est que donc après la position du tireur couché 83, donc il a encore 12 ans devant lui, il mourra en 95, finalement, il ne publiera plus rien. Et c'est un, alors on a dit, voilà, précisément, c'est le moment où on peut dire, ah, peut-être que le situationniste, tout d'un coup, on a fini avec la fiction et dégoûté définitivement du roman. On se rend compte que non, qu'il y avait plein de choses qui se préparaient, mais que précisément au moment où, en plus, il s'était vraiment remis au travail, bon, il a été rattrapé par la maladie. Mais il y a quelque chose de très, très... Bon, par ailleurs, il était devenu agoraphobe, il ne bougeait plus de chez lui, etc. Et on se le disait tout à l'heure, c'est, très régulièrement, on pense à la figure de Stache, même si c'est ces espèces de dandy qui, tout d'un coup, se retrouvent comme ça dans une espèce de faille, et qui préparent, qui grossissent, qui mûrissent quelque chose, et puis qui disparaissent comme ça dans la faille.
Jean-Patrick Manchette a retrouvé donc dans ce collectif Jean-Patrick Manchette et la raison d'écrire aux éditions Anacharsis.
show me with one white Latin male detained for now, and have a county unit dispatch over to 750 Northwest 54th Street.
What is the incident, sir?
9800 Northwest 51st Street.
Richard Matheson, second sujet ce soir dans Mauvais Genre. Gardons en main le livre consacré à Jean-Patrick Monchette, que je cite. Richard Matheson est par exemple le bon faiseur moderne par excellence, puisque pour écrire Duel de Spielberg, il a pioché gaiement dans les statistiques des congrès de psychiatrie. Cette histoire de gros camion qui poursuit sur la route l'Américain moyen n'est rien d'autre que le cauchemar statistiquement le plus répandu aux États-Unis. Xavier Mauméjean, vous êtes un de ceux qui avaient fait ce numéro spécial de Bifrost numéro 86 sur Matheson. Est-ce que c'est un bon faiseur, Matheson ?
Ce que dit Manchette est
un
très
peu rosse.
Oui, c'est très beau, mais c'est très faux parce que Matheson n'a pas écrit le duel de Spielberg. Il a écrit le duel de Matheson pour Playboy. Et oui, bien sûr qu'il était à l'écoute des tendances. Il l'a toujours été, mais l'histoire de duel est beaucoup plus belle en fait. Matheson est un ami. Ils sortent d'une partie de golf, ils montent en voiture, et là tout à coup, toutes les voitures, tous les véhicules qui sont sur l'autoroute sont folles. Ils mettent la radio, ils viennent d'apprendre que le président Kennedy s'est fait tuer à Dallas. Le compagnon de Matheson perd le contrôle du véhicule, fait une queue de poisson à un camion, et le camion décide de les prendre en poursuite, et c'est l'origine de Duel qui sera publié pratiquement 10 ans plus tard.
Alors dans ce numéro de Bifrost, Xavier Mauméjean, on peut retrouver d'une part cette espèce d'interaction permanente qu'il y a chez Matheson, qui figure plus une sorte d'archiconteur que plutôt un écrivain, plutôt un scénariste pour le cinéma, plutôt un scénariste pour la télévision. C'est une sorte de personnage qui avait des intuitions comme ça de dérèglement. Alors c'est pas du tout de la manière que Manchette, du réel américain et de la civilisation américaine. C'est plus quelqu'un qui travaillait sur le quotidien. C'est pas franchement un conteur gothique, mais c'est un des grands dérégulateurs, on pourrait dire, de l'American Way of Life.
Ah mais totalement, et puis si je vous dis enfant introverti, élevé par sa mère, le père est parti, vous pensez à Stephen King. En fait, c'est déjà Richard Matheson qui va être le fer de lance de ce renouveau du fantastique américain, qui est effectivement un fantastique du bout de la rue, du drugstore, du petit hôtel. C'est le fantastique de ce qui ne l'attend pas, c'est-à-dire la nation américaine des années 50-60. Il semblerait que le fantastique soit évacué, et ben non, Matheson va le réintroduire effectivement avec des décalages absolument sidérants. Je pense par exemple à la nouvelle Escamotage, qui est même un tour de force littéraire. Un homme dit à un moment qui voudrait tout effacer, il voudrait ne plus penser à ça, et effectivement c'est l'expression est prise littéralement, tout disparaît progressivement, et la nouvelle de Matheson finit par « je bois une tasse de café ». C'est-à-dire qu'il élimine, le personnage disparaît. Et c'est justement cette espèce d'audace associée, Manchette n'a pas tort, avec un vrai réalisme économique et financier d'un polygraphe, parce qu'on en parlera peut-être, mais il écrit pour tout le monde, qui fait que Matheson installe, mais d'entrée, la modernité du fantastique américain.
Vous êtes un lecteur de Matheson, Hervé Aubron ?
Non, et là je suis assez inculte pour Matheson, je suis il y a bien longtemps... une légende, et voilà, donc c'est quelqu'un qui m'a plutôt échappé.
Oui, parce que parmi les textes vraiment importants qui sont analysés dans Bifrost, Xavier Mauméjean, il y a d'abord Je suis une légende, l'histoire du dernier homme sur la Terre, qui n'est pas le dernier homme, la solitude métaphysique, mais plutôt quelqu'un qui défend sa peau au quotidien contre une humanité virée vampire, cet aspect-là. Et puis également autre article très intéressant sur ses liens avec Shirley Jackson,
Matheson, grand roman de Matheson, La Maison des Damnés. Donc c'est quelqu'un qui, à chaque fois, on parlait de duel, a réussi à se positionner sur des types de récits. Le récit de maison hantée, le récit post-apocalyptique, le récit du thriller angoissant. À chaque fois, il a réussi à apporter quelque chose d'encore plus perturbant sur des types de récits canoniques et classiques.
Alors, c'est exactement ça. Ce qui intéresse Matheson dans le fantastique, c'est la part proprement intellectuelle. Il a toujours établi une distinction qu'il répète au fil de ses entretiens, qui est que il est un écrivain de terreur et pas d'horreur. Bien qu'il en ait écrit, il le regrette. Et lui ne veut pas parler aux tripes, mais il veut parler à l'esprit. Et donc, effectivement, il va comme ça réinvestir des thèmes, vraiment des cas de figure, des parcours imposés même du fantastique, pour introduire une espèce d'inquiétude, d'étonnement, mais très intellectuel en fait. Y compris d'ailleurs dans la romance, parce que en écrivant Le jeune homme, la mort et le temps, qui était adapté par Jeanne Osvark avec Jeanne Seymour et Christopher Reeves, c'est une romance spontanée, immédiate, une histoire d'amour dans le temps, et pourtant il en refait quelque chose de complètement nouveau. C'est sur fond de cancer. On sait d'entrée que le héros a une tumeur au cerveau, on sait d'entrée qu'il va mourir avant la fin du roman. En fait, il est même mort au moment où commence le roman. Il arrive à associer donc une bluette avec une mort programmée. C'est ça.
Il y a des entretiens tout à fait passionnants qui sont reproduits dans Bifrost. J'en cite un. Je crois que la terreur et l'épouvante sont deux choses différentes. La terreur glace l'esprit, l'épouvante lève le cœur. Je suis sûr d'avoir écrit des histoires d'épouvante, mais j'espère avoir écrit davantage d'histoires terrifiantes.
Voilà, et c'est en ce sens-là que il va amener Stephen King de manière tout à fait cohérente, en fait. Sauf que King, lui, élargira et s'interdira pas de faire de l'épouvante. Mais en réalisant ce dossier Bifrost, on se rend compte que, par exemple, la maison des damnés, dont on a le souvenir d'images violentes et même crues, c'est sexuellement explicite, mais ce qui inquiète, et vous avez raison d'évoquer Shirley Jackson, c'est surtout l'angoisse mystique, spirituelle et même métaphysique du récit. C'est ça qui fait peur.
Aujourd'hui, maman m'a appelé monstre. Tu es un monstre, elle a dit. J'ai vu la colère dans ses yeux. Je me demande qu'est-ce que c'est qu'un monstre. Aujourd'hui, de l'eau est tombée de là-haut. Elle est tombée partout, j'ai vu. Je voyais la terre dans la petite fenêtre. La terre buvait l'eau, elle était comme une bouche qui a très soif. Et puis, elle a trop bu l'eau et elle a rendu du sale. Je n'ai pas aimé. Maman est jolie, je sais. Ici, dans l'endroit où je dors avec tout amour, des murs qui font froid, j'ai un papier. Il était pour être mangé par le feu quand il est enfermé dans la chaudière. Il y a dessus film et vedette. Il y a des images avec des figures d'autres mamans. Papa dit qu'elles sont jolies. Une fois, il l'a dit. Voilà un extrait d'une nouvelle célébrissime qui est reproduite dans Bifrost, Xavier Méjean, Journal d'un monstre. Alors là, il se met à l'intérieur de l'homme qui disparaît, l'homme qui rétrécit, il se met à l'intérieur de l'homme, là, du monstre, une espèce de monstre un peu fœtal, comme ça, qui a une conscience rabougrie, et il tente d'en trouver le langage aussi.
Alors, il y arrive en un coup de maître à 24 ans avec effectivement Journal d'un monstre, mais on oublie, et c'est peut-être un peu dommage, la nouvelle qu'il écrit l'année d'après, en 51, qui est La petite robe blanche, où là, au contraire, il part d'une petite fille qui est très touchante, qui est enfermée dans sa chambre par sa grand-mère. Donc, c'est vraiment une mignonne fillette. Et on se rend compte, au fur et à mesure de la mélopée qui revient continuellement, vilaine main, dent de lapin, qu'en fait, elle est une vampire, et que sa grand-mère l'a enfermée dans sa chambre parce que le shérif va arriver pour la tuer. Il prend l'inverse, il arrive comme ça à coupler deux récits de monstres qui sont absolument sidérants. différent.
Donc c'est ça qui est fascinant, et c'est un peu la leçon qu'on retire de la lecture de ce numéro, Xavier Homégean, c'est que il y a à la fois chez Matheson une horreur du sujet, mais qui est redoublée et amplifiée par, je dirais, une horreur formelle. C'est aussi le texte qui est monstrueux, parce qu'il se déconstruit, il est un peu avorté, il est d'une fausse innocence. Il y a une horreur du texte, une horreur formelle et une horreur du contenu et du contenant. Les deux sont aussi horrifiques l'un que l'autre, et c'est leur fusion qui crée vraiment l'effet Matheson.
L'effet Matheson qui peut en plus multiplier les approches littéraires, c'est-à-dire que ce que vous dites de cette espèce de déco entre la forme et le fond, il arrive à le trouver à chaque fois. Vous parliez évidemment de « Je suis une légende ». Quand on retourne au roman, Robert Neville, c'est un ouvrier, il n'est pas du tout le médecin militaire du film avec Charlton Heston ou le médecin de Will Smith, c'est un homme qui est totalement dépassé parce qu'il de toute façon dépasserait tout le monde, et c'est un ouvrier qui expérimente sur des vampires ce qu'il sait lui à travers les films. Donc est-ce qu'un vampire juif va être sensible à un crucifix, est-ce que il fait du mal aux vampires, ça oui, etc. C'est-à-dire que Je suis une légende, à nouveau comme vous le disiez, dans cette espèce de déco entre forme et fond, c'est celui d'un homme simple, d'un homme normal qui est confronté à la normale.
Richard Matheson, il est une légende, donc à retrouver dans ce numéro de Bifrost, numéro 86. Termine ces mauvais gens avec quelques préconisations de lecture, Élise Lépine.
Voilà, alors trois préconisations. Tout d'abord, Alice de Patrick Sénécal aux éditions Fleuve Noir. Donc Alice, A-L-I-2-S, c'est le nom que va se choisir Alice, A-L-I-C-E, qui veut changer de vie, jeune fille modèle de la grande banlieue de Montréal, à qui quelques joints et un peu de sexe avec son petit ami ne suffisent plus, il lui faut le grand frisson. Donc elle s'en va à 18 ans, elle prend le métro malgré les imprécations de sa famille pour se rendre dans un quartier inconnu, non cartographié de Montréal. D'ailleurs, quand on y est, ou qu'on se tienne dans le quartier, on voit la même perspective et c'est très difficile d'en sortir. Elle va y croiser des habitants qui, pour le coup, vont vraiment lui donner le frisson. On va voir un dealer qui se prend pour une chenille, un junkie au sourire fixe et aux sagesses inattendues, un couple de siamois adeptes de la torture la plus brutale, des sadomasochistes en tout genre, et puis des drogues, la micro, la macro qui fait rapetisser, qui fait grandir, et surtout la reine rouge, cette arlésienne qu'Alice rêve de rencontrer à n'importe quel prix. Ça vous rappelle quelque chose, bien sûr. C'est Alice au pays des merveilles, ou ici c'est Alice au pays des horreurs, une lecture très audacieuse de la rêverie de Lewis Carroll. Comme souvent chez Patrick Sénécal, l'horreur côtoie la poésie et la philosophie, notamment Nietzsche, hein, qui est relu ici, à qui est rendu justice. C'est une fine plume trempée dans le gore et plantée très près du cœur. Patrick Sénécal, la grande voix du thriller québécois, c'est la sienne. Alors, on tend l'oreille.
C'est aux éditions
Fleuve Noir.
Fleuve Noir.
Deuxième roman, Pyromane de Wojciech.
Wojtek.
Wojtek, ah.
Je me risque à vous donner des conseils.
Schmierlaz.
Un peu impudent, mais enfin bon.
Mais écoutez, vous avez bien raison, parce que moi je suis très nulle en polonais. Chez Agulo, la nouvelle maison d'édition, jeune maison Agulo. Et c'est un nouveau flic qui débarque dans la constellation des inspecteurs de police qu'on aime bien, nous, dans la littérature noire et polardeuse. Celui-ci donc nous vient de Pologne, de Varsovie. Il s'appelle Jakub Mortka. Et il a beau être un fin limier de la police de Varsovie, on le sent, on le voit, c'est quand même un homme malheureux, il est poursuivi par ses échecs personnels, un divorce, il vit en coloc avec des post-ados complètement insupportables. Il a une vie un peu minable et il est aux trousses d'un pyromane qui frappe a priori au hasard dans la ville. Et il va falloir trouver le lien entre ces différentes victimes et pour l'aider, il se voit affublé d'une profileuse un peu digne du FBI. Alors elle est branchée psychologie, elle est toute pimpante, c'est à peu près tout ce que déteste notre bon vieux flic à l'ancienne. C'est la querelle des anciens et des modernes à la sauce policière, le tout dans une Varsovie très compliquée, très misogyne, hein. Vraiment la misogynie est pointée du doigt dans ce livre, la misère, la violence sociale également. C'est une véritable enquête bien ficelée, doublée d'un vrai regard qui interroge le monde. Que demander de plus ? Ce nouveau flic attachant qu'on va retrouver en 2018, puisque c'est une série qui commence aux éditions Agulot.
Agulot,
et ne me faites pas redire le nom
de
l'auteur.
Qui nous réserve souvent de bien belles surprises, d'ailleurs.
Et dernière lecture, Desert Home, de James Anderson, chez Bellefond. Alors, Ben Jones, qui est presque quadragénaire, même s'il n'a jamais eu ni famille, ni foyer. Sa maison, c'est son camion. Il est chauffeur-livreur le long de la route 117 qui traverse le désert de l'Utah. Alors, il n'y a ni poste, ni courrier dans ce coin. Perdu, c'est lui qui ravitaille les habitants. Habitants de toutes sortes et surtout étranges. À moitié sauvage, blessé par la vie, en cavale ou en convalescence. Il y a son ami Walt qui tient un diner qui n'a pas ouvert depuis au moins 40 ans quand un drame a frappé les lieux. Débarque dans ce paysage lunaire, crépusculaire, une jeune femme claire qui joue du violoncelle sans corde dans une maison vide, Ben est transpercée.
Violoncelle sans corde dans une maison vide.
Quelle belle image. Et Ben est transpercé par cette femme. Et il y a des fleurs qui poussent dans le désert, paraît-il. Alors peut-être y aura-t-il de l'amour. Il faut compter cependant avec les serpents venimeux du désert et la soif de vengeance qui peut y sévir. On est dans un roman noir qui m'a évoqué à la fois Toby Hooper, Massacre à la tronçonneuse, avec des scènes très graphiques, très effrayantes, de no-go zone, hein, bien sûr, où il ne faut pas aller. Et puis en même temps, on est dans le nature writing à l'américaine, avec notamment une plume qui évoque un peu celle de Ron Rash. La fin est inattendue, très émouvante, et c'est aussi un premier roman, donc on attend impatiemment la suite de James Anderson aux éditions Bellefond.
Merci Élise Lépine pour ces trois préconisations de lecture pendant ce week-end, et nous continuons et nous terminons, nous parachevons l'émission avec bien sûr Christophe Beer.
De toutes les collections de romans de gare nées à partir des années 1970, celle du Bébé Noir et de la Brigandine, publiée par Henri Verrier, libraire soldeur des puces de Clignancourt, sont les plus séditieuses, brandissant aux cimes de l'érotisme la petite culotte libertaire. Le mérite en revient au jeune directeur de collection Jean-Claude H., un esthète discret venu des éditions Plasma, amateur de textes rares et de surréalisme. Il refuse les manuscrits des vieux briscards tirant à la ligne pour publier de nouveaux auteurs turbulents venus du journalisme et de la contre-culture post-68arde. Si le néo-polar dépoussière alors la série noire, ces trublions inventent une sorte de néo-érotisme. Excité par les rondelets avaloirs de l'avare avéronnais des puces, qu'il leur faut arracher, encouragé par la liberté créative que leur offre, en revanche sans compter, leur directeur, du moment qu'il préserve un tiers de quota érotique, ces fougueux flibustiers commettent des brûlots détonnants. Attribué à Raoul Vaneghem, dont H. avait édité l'histoire désinvolte du surréalisme, la vie secrète d'Eugénie Grandet, vaste détournement balzacien à charge anticléricale, brise le tabou de l'inceste. Acolyte des attentats pâtissiers de Noël Godin, Jean-Pierre Bouixou donne sa brigandine la plus frappadingue avec l'odieux tout-puissant. Où, comment un pauvre type dans la dèche apprend, le jour de ses 33 ans, qu'il est le fils de Dieu et possède, à ce titre, des super-pouvoirs qui lui permettent de déplacer la tour Eiffel, mais aussi de mettre sur orbite spatiale tout édifice religieux. Citons aussi le trop modeste Jacques Boivin qui parsème de sarcasme politique sa tétralogie sur un tueur à gages aux multiples visages, sorte de fantomas ou de diabolique, ainsi que l'elficologue Pierre Dubois dont God Save the Crime, huisme ancienne et gore version de Jack l'Éventreur, est un sommet de romantisme sadien. Frank Reichert, Jean-Marie Souillot, Raphaël Marongiu, plus occasionnellement Jean Streff, l'éditeur Pierre Laurendeau, Alain Pocard, le temps d'un polar désinvolte qui accumule les calembours désolants avec des citations de Monterland et de Léon Blois, et même Jacques Rivet, future pointure de la littérature jeunesse, sont aussi de l'aventure. La Brigandine, les dessous d'une collection, dirigée par Vincent Roussel aux éditions Artus Film, monographie passionnée et érudite, revient sur ce label unique qui dynamita les romans dits de cul grâce à l'exigence iconoclaste d'un directeur de collection qui se méfiait des hiérarchies littéraires et n'imposait qu'un seul interdit. Pas de D majuscule à Dieu. Ce fumier ne la mérite pas, expliquait-il.
Voilà, qui aurait pu à Guy Debord, Hervé Aubron.
Oui, Guy Debord, peut-être à Manchette aussi.
Manchette également. Donc, votre prochain livre à vous, c'est donc un...
Ça sera pas La Brigandine. Oui, donc c'est un essai sur Werner Herzog. Hein. On s'était vu il y a quelques temps à propos de Werner Herzog, hein, qu'on a écrit avec Emmanuel Burdeau, qui s'appelle Werner Herzog Pas à Pas, et qui sort à la mi-juin chez Capricci.
Ben, on sera attentif quant à Xavier Moëjean. Ben, on attend votre roman aux éditions Alma. Je rappelle les sujets traités ce soir. Il y arrive. Jean-Patrick Manchette et la raison d'écrire chez Anna Karzis, le numéro de Bifrost 86 sur Richard Matheson, Alice de Patrick Sénécal au Fleuve Noir. Pyromane de Wojtek Siemlatz, c'est chez Agulo, et James Anderson, Desert Home, c'est chez Belfond. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Marie Lepin, Chloé Leblon, Élise Lépine, Hervé Aubron, Xavier Mauméjean, Christophe Bire et François Angélier vous remercient d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain pour évoquer L'Empereur du Nord de Robert Aldrich et Fantasme de Don Coscarelli. On ne quitte pas l'antenne de France Culture, on retrouve Amaury Chardot pour Métronomique.